autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique venus avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, amis auditeurs qui êtes loin d'ici. Nous sommes en direct avec Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Avec Carole Châtelain de Science et Avenir. Bonjour Carole.
Bonjour.
Philippe Pajot de La Recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et avec Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Invitation au voyage pour cette dernière infusion de science avant l'été, où la Terre se rapproche de Mars. Vous entraînerez donc Philippe sur la planète Mars, carrément, dans l'édition spéciale martienne de Ciel et Espace. Avec vous, Caroline, on plongera dans les méandres d'un jeu vidéo qui fait travailler nos neurones. On remontera le temps avec vous, Carole, sur les traces des bâtisseurs de pyramides. Dernière révélation sur Khéops. Et puis nous arrêterons enfin au bord de la fourmilière, au cœur d'un banc de poissons et au centre de nos villes, pour découvrir les systèmes complexes du vivant que l'on peut désormais modéliser. Mais jusqu'où ? Autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?» Bienvenue. C'est à Toulouse que la science infuse et se diffuse toute cette semaine. La ville rose, qui est aussi la cité de l'espace, est la capitale européenne de la science. Près de 4000 scientifiques de toutes disciplines y sont réunis jusqu'au 14 juillet pour l'Euroscience Open Forum LESOF. Nous vous avons fait partager lundi quelques-unes des interrogations soulevées sur place par les jeunes chercheurs africains qui étudient en Europe. Les échanges se poursuivent toute la semaine. Vous allez nous en dire plus, Philippe Pajot, puisque vous revenez, je crois que vous avez atterri ce matin de Toulouse. Avez-vous eu la chance d'assister hier à la présentation, c'est une première mondiale, de ce crâne de mastodonte des Pyrénées, cet ancêtre de l'éléphant, découvert par hasard au sud de Toulouse et présenté donc au muséum à Toulouse.
Tout à fait, c'était assez étonnant. En fait, c'est la résolution d'un mystère scientifique qui date d'il y a 160 ans, parce qu'en 1857, en fait, un naturaliste découvre dans les Pyrénées quatre dents très bizarres qu'il n'arrive pas à attribuer à une espèce connue. Et pendant 160 ans, le mystère va perdurer jusqu'à ce que, en fait, il y a peu de temps, en 2014, en faisant des travaux dans son jardin avec une pelleteuse, un Toulousain au sud de Toulouse, commence à taper sur quelque chose de dur et il appelle, il y a un bout de défense qui dedans qui sort, il appelle tout de suite les naturalistes et
du
muséum, voilà, et notamment le fameux spécialiste des proboscidiens, Pascal Tassi, qui est grand spécialiste de ces animaux.
Des proboscidiens.
Ce sont les animaux à trompe, ils sont donc ces ancêtres,
ces ancêtres d'éléphants.
Et donc, ce qu'ils vont découvrir là, c'est effectivement le crâne complet d'un de ces mastodontes et qu'ils ont pu rapprocher de cette découverte qui avait été faite, en fait, il y a 160 ans. Donc, c'est vraiment...
Une découverte par hasard, voilà, d'un crâne entier
une nouvelle espèce qui est maintenant assez bien caractérisée, puisque, effectivement, quand on voit les photos hier, on nous a montré ce crâne entier, c'est extrêmement impressionnant. On reconnaît tout à fait... Un nerf éléphantesque
de ce crâne, donc de ce fossile qui avait moins 23 et moins 5 millions d'années avant notre ère.
Oui, alors 11 à 15 millions d'années, les datations je pense sont pas encore faites, mais effectivement ce sont ces ancêtres des éléphants qui avaient en Europe à cette époque-là.
Et qui sera donc exposé, en tout cas travaillé, étudié au Muséum National de Toulouse. C'est un mauvais jeu de mots ça, mais il y avait beaucoup de jus de crâne aussi à Toulouse, à l'ESOF en même temps, à côté de ce crâne de mastodonte, remue-ménage entre chercheurs, hein, autour de la science et de la science qui se fait en Europe et des questions qui se posent
énormément
à la recherche.
Énormément de questions qui sont posées, à la fois des chercheurs qui sont venus et puis des grands témoins. Il y avait notamment Laurent Fabius et Jean Jouzel hier qui parlaient de l'avenir, la suite de la COP 21. Ça a été des moments extrêmement intéressants et ça continue jusqu'à la fin de la semaine.
Carole Châtelain, sur cette grande conférence, gros raout scientifique européen.
Oui, c'est un moment très important pour la science européenne, puisque c'est là où les sujets de science rencontrent la société aussi, mais c'est aussi le moment pour les chercheurs de faire passer des messages de façon extrêmement forte, et il y a notamment une pétition qui vient d'être signée par plus de 50 scientifiques, dont 3 prix Nobel français, pour demander des fonds supplémentaires pour soutenir la recherche en Europe. Ils demandent 160 milliards dans le cadre du programme européen de recherche, parce que la recherche européenne a besoin d'argent, d'autant qu'en raison du Brexit, le Royaume-Uni n'apportera plus sa contribution. C'est quand même une énorme perte de plus de 7 milliards d'euros.
Donc, la politique, la géopolitique et l'économie s'invitent évidemment dans ces conférences scientifiques.
Et c'est l'un de ses rôles aussi.
Autour de la question comment la science infuse à Toulouse, donc à Paris ou sur Mars, on se délocalise sur la planète rouge, carrément, avec l'édition spéciale martienne de Ciel et Espace, science ou science-fiction, réponse après l'atterrissage, mixée par Sophie Janin.
Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue.
Coucou!
For your convenience, I have monitored to respond to the name Robbie.
Combien de temps vous restez sur Mars?
2 semaines.
Est-ce que vous apportez des fruits ou des légumes sur la planète?
Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers.
Des extraterrestres.
Et le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même.
Dites-moi, selon vous, quel genre de connaissances les Martiens nous enseigneront, professeur?
Bien des choses sur Mars, Nathalie, j'espère.
Nous l'espérons aussi, Philippe Hénarejos, en direct de Mars, ou presque. Vous avez profité, en fait, du rapprochement entre notre Terre et Mars cet été pour changer de point de vue et réaliser un numéro très spécial de Ciel et Espace du point de vue martien, c'est ça?
Oui, il faut de temps en temps changer son point de vue sur l'univers. Certes, Mars n'est qu'à le 27 juillet prochain, Mars n'est qu'à 57 millions de kilomètres de la Terre.
Bon, c'est rien.
C'est rien du tout. C'est une paille à l'échelle du système solaire et de l'univers. Mais justement, le fait d'essayer de faire un petit jeu, bon, qui est un peu artificiel, c'est vrai, mais un petit jeu qui consiste à se placer sur Mars pour traiter les différents sujets. Évidemment, ils sont très centrés sur Mars, ces sujets-là. Hein. C'est quand même le numéro qui parle de la planète rouge, ça nous permet un petit peu de changer notre point de vue, pas seulement géographiquement, mais dans le temps. Par exemple, un des premiers papiers, c'est pas vraiment un papier journalistique en plus du numéro.
Vous flirtez avec la science-fiction.
Ouais, ça remet en perspective le fait qu'il y a 100 ans à peu près, quand La guerre des mondes de Herbert George Wells sortait, on voyait Mars à travers des télescopes et on voyait cette planète comme une planète vivante, avec sans doute de la vie dessus.
Mais avec
une
des
planète,
petits hommes verts.
Mais une planète vieille qui était en train de décliner et où on risquait de se faire envahir par une espèce. Et aujourd'hui, 100 ans plus tard, finalement, on est dans la situation totalement inverse, où on regarde un peu notre planète avec tous les problèmes d'environnement. Bien, certes, c'est exagéré, mais avec des problèmes d'environnement sérieux, comme une planète un peu finissante, et où certains, par exemple Elon Musk, qui est le patron de SpaceX, la société spatiale américaine, développent toute une théorie en disant « si la Terre est foutue, on va avoir une planète rechange, et ça sera Mars ». Et du coup, on se retrouve presque dans la position des envahisseurs de Mars aujourd'hui. Donc il y a un papier qui joue avec ce changement de perspective.
Tout s'est inversé. C'est vraiment la Terre qu'on regarde avec beaucoup d'attention aujourd'hui, voilà. Et on rêve d'aller sur Mars.
Exactement.
Alors que sur Mars, finalement, c'est quand même assez hostile. Hein. C'est pas pour dire, mais au niveau des tempêtes et des volcans, vaut quand même mieux rester sur Terre.
Absolument. Au gré de ce numéro, on va quand même découvrir, évidemment, comme là, Mars est peut-être une planète qui a abrité la vie, ça on en sait rien, c'est toujours une grande question, mais qui est quand même fondamentalement hostile aujourd'hui, et que ce n'est surtout pas une planète de rechange pour la Terre, notamment. C'est la planète la plus hospitalière qu'on connaisse, mais c'est quand même beaucoup plus inhospitalier que l'Antarctique. Or, personne ne pense aller se réfugier en Antarctique aujourd'hui. Donc,
Et puis, étudier Mars, ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur l'histoire de la Terre elle-même, parce qu'elles ont été, c'est un peu la sœur jumelle, hein.
Oui,
elles ont eu un destin proche. Ça nous renvoie aussi à notre propre disparition possible.
Oui, à notre propre histoire. Notamment, il y a un article qui parle de petits fragments qui ont été trouvés dans une météorite qui est tombée en 2004, je crois, au Soudan, et dans lesquels on a retrouvé les fragments de petits planétoïdes à partir desquels la Terre et Mars sont certainement formés. Donc, c'est une histoire commune au départ. Ces deux planètes-là ont la même histoire immédiatement après la formation du sol. Soleil.
Et Mars sera aussi à l'honneur dans la prochaine nuit des étoiles. Hein. Ça va être les 3, 4 et 5 août prochains, grand festival astronomique. Oui. Et on va encore reparler de Mars qui sera proche de la Terre à ce moment-là.
Oui, avant ça, Mars passe au plus près de la Terre le 27 juillet. Et vraiment, elle marque son empreinte parce qu'à ce moment-là, il y a ce soir-là une éclipse totale de Lune qui est visible notamment depuis la France. Et une éclipse totale de Lune, c'est quand la Lune passe dans l'ombre de la Terre et par un phénomène de réfraction atmosphérique, seuls les rayons rouges du Soleil arrivent sur la Lune. Et à ce moment-là, la Lune ressemble à Mars finalement. Elle est toute rouge. Donc il y a un premier rendez-vous comme ça à voir dès le coucher du Soleil le 27 juillet. Et ensuite, évidemment, ce sont les Nuits des Étoiles dont la thématique c'est Mars, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, avec tous les robots qui sont en train de l'explorer aujourd'hui, avec aujourd'hui, au moment où nous parlons et dans les semaines qui vont venir, une gigantesque tempête de poussière qui s'est déclenchée à la surface de Mars et qui nous empêche de la voir bien au télescope malheureusement. Mais enfin, on peut voir la tempête, on peut observer Mars comme une planète atmosphérique et non pas comme une planète sur laquelle on va essayer de voir de la géographie. Cette tempête va encore durer des semaines, on en apprend beaucoup là-dessus. On voit que Opportunity, l'un des robots qui marche avec des panneaux solaires, est en danger de mort.
À cause de cette tempête.
Voilà, il ne voit plus le soleil, on n'a plus de nouvelles, donc on va attendre. Mais Curiosity, lui, continue à nous envoyer des images du fog martien, en fait.
Mars, comme si vous y étiez, l'édition martienne de Ciel et Espace, disponible en kiosque. Je vous rappelle, amis auditeurs, que nous avons un exemplaire à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale pour vous croire, vous aussi, sur Mars, même si Mars is no fun. Camille, sur RFI.
Go to the beach, not enough water. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything is pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave a place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, I want to go back on Earth and live with you in our social housing. Wander all afternoon in the shopping mall of Milton Keynes.
Mars is no fun, Camille sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, nous revenons sur Terre pour repartir pour un voyage à remonter le temps sur les traces des bâtisseurs de pyramides, et pas n'importe laquelle des pyramides, la pyramide de Khéops, grâce au papyrus retrouvé et traduit du journal de bord d'un chef d'équipe qui a construit la pyramide de Khéops. Cette formidable histoire fait la une de Science et Avenir. Avant de la découvrir avec vous, Carole Châtelain, on commence par se rafraîchir la mémoire.
Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides.
Des trucs pointus, là.
Ne me perdez pas de vue, hein. Vous ne sortiriez pas vivant de ce labyrinthe. Sur votre droite, Anubis.
C'est très émouvant.
Dieu des morts et des ténèbres. Venez, chers visiteurs, entrez. Les hiéroglyphes qui ornent cette salle sont magnifiques. Après vous, entrez, entrez.
Ah oui. Effectivement.
Nous ressortons de la pyramide d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est un petit clin d'œil pour vous, Carole Châtelain.
Oui, merci pour ce document exceptionnel.
Exceptionnel, effectivement, parce que vous, dans Science et Avenir, vous nous faites pénétrer, là c'est vraiment exceptionnel, dans le quotidien des bâtisseurs de pyramides. On a retrouvé le journal d'un chef d'équipe, c'est ça, qui a construit, il y a quoi, il y a plus de 4000 ans, la pyramide de Khéops.
C'est ça, c'est une immense aventure en fait que nous racontons, que notre journaliste Bernadette Arnault raconte, c'est l'histoire de manuscrits qui ont été découverts il y a relativement peu de temps. Ils ont commencé à être exhumés en 2013 dans le plus vieux port du monde, qui est un port égyptien qu'on appelle Wadi al-Jarf, qui est sur la mer Rouge. Et le chercheur français Pierre Tallet, qui occupe la chaire d'égyptologie au Collège de France, en a commencé la traduction. Et c'est là que c'est absolument fascinant, parce que ces manuscrits racontent des histoires que nous ne connaissions pas. Et c'est la première fois que nous avons accès au quotidien des travailleurs de la pyramide de Gizeh. On peut imaginer la joie que Pierre Tallet a eue lorsqu'il a découvert que ces manuscrits parlaient de la construction de la pyramide de Gizeh. Il le raconte lui-même, ça a été un des immenses moments de sa vie. C'est la très grande pyramide donc, qui a été voulue par le pharaon Khéops, qui est le pharaon de la 4e dynastie. On est donc là, il a régné il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et il découvre, Pierre Tallet découvre en regardant ces manuscrits, qui sont des petits morceaux. Il a d'ailleurs d'abord fallu les reconstituer.
C'est ça.
C'est un puzzle. Mmh. Et Pierre Tallet a évidemment mis à l'abri, et tous ces documents sont restés en Égypte. C'est des trésors nationaux maintenant. Donc Pierre Tallet fait ses traductions à partir de photographies extrêmement précises
de ces papyrus.
Et en fait, il s'est aperçu notamment, parce que la traduction est en cours, donc il nous promet des surprises à venir, qu'il avait entre les mains, notamment, le journal de bord d'un chef d'équipe qui était chargé d'aller chercher ce qu'on appelle les pierres de Parment, c'est-à-dire ce sont ces pierres qu'on ne voit malheureusement plus aujourd'hui sur Khéops, qui étaient ces pierres de calcaire blanche, magnifiques, qui recouvraient les pyramides. Aujourd'hui, on les voit brutes. Ces pierres ont disparu, sauf sur Khéfrou, je crois, enfin une des pyramides. Il en reste un peu sur le sommet. Mais on ignorait absolument tout de la façon dont ça se passait. Donc, d'immenses mystères ont été résolus grâce à cette traduction.
Et c'est pas fini d'ailleurs, puisqu'en fait, il n'a pas terminé encore complètement cette traduction.
Non.
On imagine qu'on va découvrir.
Alors, on va découvrir là déjà ce qui est formidable. C'est donc ce chef d'équipe s'appelle Merer. Il est chef d'une équipe de bateliers. Ils remontent le Nil. Ils vont chercher ces pierres dans des carrières qui sont plus loin sur le Nil, c'est les carrières de Toura, et il raconte son quotidien pendant 3 mois. Il dit, je suis allé chercher des pierres, je les ai ramenées là, j'ai mis tant de temps, enfin bon, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel.
C'est un travail pharaonique.
C'est un travail pharaonique,
oui.
Et comme ça que quelqu'un, on va dire entre guillemets, du peuple s'exprime, ça n'était jamais arrivé. Généralement, c'est des documents officiels qu'on retrouve, alors c'est des comptabilités, c'est très ennuyeux, enfin j'exagère quand
Là, c'est vraiment une ouverture sur la vie quotidienne à l'époque, mais aussi sur tout le transport maritime qu'il y avait autour.
Il y a plein de choses qu'on découvre, notamment comment s'est construite la pyramide de Khéops. On découvre qu'il y avait un bassin qui avait été creusé juste au pied de la pyramide pour permettre justement à ces bateaux d'arriver au plus près, parce qu'ils transportaient de lourdes charges, on imagine. Ces blocs de pierre pesaient quelques tonnes. Et il y avait une rampe d'accès qui conduisait à la pyramide. Ça, on l'ignorait. Enfin, on le subodorait, puisqu'il y avait eu quelques sondages qui avaient montré qu'il devait y avoir cet emplacement-là des bassins, mais là c'est clairement dit dans le journal de Merer, donc c'est une énorme confirmation. On a pu placer les bâtiments administratifs, enfin bon, des choses qui sont pour les archéologues absolument fascinantes.
Est-ce qu'on comprend mieux du coup le rôle de ces monuments, de ces pyramides ?
Alors on comprend mieux le rôle, on appelait la pyramide de Khéops s'appelait l'horizon de Khéops. Grâce aux détails géographiques qui sont révélés, on comprend que Khéops lui-même avait ses fenêtres qui donnaient sur sa pyramide selon des angles extrêmement précis, donc tout ça on l'ignorait jusqu'à présent. Et puis comme vous le disiez, on découvre aussi, là aussi c'est des confirmations mais de première main si je puis dire, la façon dont la marine égyptienne était composée. Ils avaient des bateaux démontables, des kits qu'ils transportaient à dos d'hommes et d'ânes, puisque c'est l'âne qui servait pour ces caravanes terrestres, qu'ils transportaient jusqu'à la mer Rouge. Ces équipes là, dont celle de Merer, était polyvalente. Elles allaient chercher les matières premières en mer Rouge, elles revenaient, elles allaient chercher les pierres sur le Nil, donc tout ça.
C'est absolument fascinant d'arriver à remonter le temps comme ça, au plus près de ces bâtisseurs de pyramides. J'imagine que ça ouvre aussi plein de questions et plein de nouvelles recherches possibles.
C'est des horizons formidables. Pierre Tallet notamment a pu établir que que l'Égypte était effectivement mise en coupe réglée pour pouvoir construire ces pyramides, c'est-à-dire que tout le monde était prié de s'y mettre, d'une manière ou d'une autre, mais que finalement, ceux qui ont vraiment œuvré sur le chantier étaient peut-être moins nombreux qu'on ne le disait jusqu'alors, avec des calculs de un bateau peut transporter tant de pierres, etc. Il arrive à un chiffre d'environ 12 000 personnes, c'est moins que ce qu'on avait imaginé. Donc, comme ces traductions sont en cours... Eh bien,
on attend de prochaines révélations, en tout cas les dernières révélations sur la pyramide de Khéops, car ça c'est papyrus retrouvé, c'est à lire dans Sens et Avenir de ce mois de juillet, dont nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs. On reste sur Khéops, version jazzy avec le trio Thierry Maillard sur RFI. Version jazz avec le trio Thierry Maillard sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et pourquoi est-il désormais possible de décrire le monde qui nous entoure, tous les systèmes complexes que sont les sociétés, animales et humaines, tout le vivant, toutes les interactions à l'aide de ces systèmes complexes. Comment les travaux mathématiques sur le chaos, la puissance de calcul pourraient nous aider à mettre le monde en équation et jusqu'où? C'est le dossier de la recherche de ce mois de juillet. Philippe Pageot, avant de rentrer dans cette complexité, je propose de commencer par pénétrer dans la fourmilière. Un exemple de société animale organisée, un système complexe qui intéresse les chercheurs comme Audrey Dussutour, spécialiste des algorithmes fourmis. Écoutez son éclairage.
Chaque fourmi a une tâche plus particulière qu'elle va faire. Donc on a parlé des récolteuses, des nourrices. Donc clairement, les nourrices vont être plus connectées entre elles, les récolteuses plus connectées entre elles que les deux groupes. Chez les fourmis coupeuses de feuilles, par exemple, on a vraiment une grande division du travail avec des petites fourmis qu'on appelle les jardinières qui vont s'occuper du champignon. C'est les fameuses fourmis agricultrices. Elles élèvent un champignon qui va permettre de digérer des feuilles parce qu'elles ne peuvent pas les digérer. Donc elles le donnent au champignon, le champignon digère, elles mangent le champignon. Elles ne rencontreront jamais leurs sœurs qui récoltent à l'extérieur, qui sont 10 à 15 fois, même 20 fois leur taille. Et donc on va avoir des sous-réseaux à l'intérieur de la société de fourmis qui sont eux connectés entre eux, mais on va avoir une hyper-connexion. C'est comme avec des villes. Vous allez rencontrer les gens qui sont dans votre ville, mais vous n'allez pas forcément rencontrer des gens de Besançon, justement. Mais on aura quelques liens entre Besançon et Toulouse, mais les gens de Toulouse sont plus connectés entre eux, les gens de Besançon plus connectés entre eux qu'entre Besançon et Toulouse. Et donc on va avoir des micro-réseaux à l'intérieur des colonies de fourmis.
Les micro-réseaux des colonies de fourmis, les bancs de poissons, mais aussi l'épidémiologie, l'économie ou la circulation dans les villes. Tout est système complexe, Philippe Pageot, et c'est dans la recherche de ce mois-ci.
Oui, effectivement, notre numéro double d'été, on a consacré un gros dossier au système complexe. Alors, c'est effectivement une question de micro-réseaux et de connexions, hein, parce que quand on parle de système complexe, en fait... Alors, d'abord, complexité, c'est un mot un peu complexe, pour ainsi dire.
Et Edgar Morin, le penseur Edgar Morin, qui l'a travaillé le premier.
Pas le premier nécessairement. Il y a beaucoup d'exceptions en fait de complexes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
c'est trop complexe.
C'est trop complexe, voilà. Mais pour ce qui nous concerne, en fait, ce qu'on appelle un système complexe, c'est un système qui est composé d'entités simples, d'un grand nombre d'unités simples qui interagissent entre elles, sans coordination centrale, sans plan établi par un architecte, qui mène spontanément à l'émergence de structures complexes du coup.
C'est-à-dire effectivement des colonies de fourmis, des bancs de poissons.
Des structures stables, voilà, donc qui peuvent être des nids termitières, des nids de fourmis. Ça peut décrire le comportement des bancs de poissons, les villes, puisque évidemment nous sommes nous-mêmes des entités.
On est des entités interdépendantes et qui formons un gros système,
voilà,
en fait.
Voilà, hein. Mmh. Exactement. Alors après, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment des entités qui pouvons être décrites par. Ce type
modélisé, finalement, c'est assez compliqué. Ça ouvre d'autres questions, et ça ouvre d'autres questions aussi à cause aujourd'hui de la puissance de calcul qui permet précisément de tout modéliser, de nous considérer tous comme des entités faisant partie d'une plus grande entité.
Comme des entités élémentaires, effectivement, l'ère du big data, hein, l'arrivée des big data a redonné un peu de grain à moudre à ces gens qui faisaient des systèmes complexes. Alors ce qui est aussi intéressant de voir, et on a interrogé un sociologue là-dessus, c'était la manière dont cette discipline est apparue. En fait, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 80 et qui vient en fait d'Américains qui travaillaient au centre au départ de Los Alamos. C'était des gens qui travaillaient sur la bombe atomique, des physiciens, des mathématiciens, et qui avaient ces outils mathématiques qui étaient issus en fait de la théorie du chaos. C'est pour ça qu'on a intitulé notre dossier « Chaos et complexité ».
Et ce sont ces outils mathématiques-là qui les ont incités à travailler de cette manière-là sur tous les systèmes du vivant.
Exactement. Donc, ils travaillaient en physique nucléaire, en théorie des cordes, sur le chaos. Ils avaient connu effectivement cet âge d'or en fait, de l'interdisciplinarité qui leur avait permis de faire la bombe atomique. Ils avaient également conscience de la puissance de l'ordinateur et ils ont commencé.
Et de la puissance des découvertes scientifiques, pour le meilleur comme pour le pire.
Et en fait, c'est à cette période qu'ils ont voulu, avec leur culture, leurs instruments techniques et leurs théories, mettre leur vision du monde et de la nature. Ils ont voulu scientifiser les autres disciplines. Alors, il y a des gens qui peuvent effectivement s'opposer à cette idée, notamment.
Oui, parce que ça pose plein de questions. Vous le dites vous-même dans ce dossier de la recherche. Est-ce qu'on peut mettre le monde en équation? Est-ce qu'on peut tout mettre en équation? Ça ouvre en même temps des perspectives très intéressantes de recherche, mais ça pose aussi de grandes questions.
Voilà. Alors, il y a des domaines dans lesquels on arrive extrêmement bien à le faire. Il y a eu des études, par exemple, des systèmes politiques, comment l'émergence des systèmes politiques se fait à partir des réseaux comme Twitter, comme Facebook. Mais d'un autre côté, est-ce que la complexité des individus elle-même, alors cette fois-ci, ces individus qui sont complexes,
est-ce qu'on peut les réduire finalement?
S'oppose à l'élaboration des modèles stables. Et effectivement, on a un papier d'un physicien, Paul Bojansen, qui lui met en doute cette utilisation des systèmes complexes dès lors qu'on utilise l'humain. Alors, on peut prendre comme exemple l'économie. L'économie est également un domaine où on peut se dire a priori qu'on pourrait faire des modélisations des systèmes complexes. Il y a certains économes qui pensent qu'on peut inclure de la psychologie humaine, des neurosciences dans l'économie et avoir une modélisation de l'économie qui soit plus réelle. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Donc, il y a vraiment,
Et puis, ce n'est peut-être pas ce qu'on souhaite. En tout cas, c'est à mettre en question. Finalement, ce sont des outils pour étudier autrement des systèmes. Mais voilà, jusqu'où voulons-nous nous étudier nous-mêmes en tant qu'entité? Il y a aussi cette question-là à se poser.
Tout à fait. Et alors, une chose très intéressante aussi, c'est le rôle des mathématiques. Par exemple, le hasard et les systèmes complexes permettent un nouveau type de calcul, notamment on a un article très intéressant sur les automates cellulaires. Les automates cellulaires, c'est des petites unités, un petit tableau, des petites cellules en interaction. Et grâce à ces cellules en interaction, avec des règles très simples, on arrive à faire toute une série de calculs. Et on peut même montrer que certains automates cellulaires sont des calculateurs universels. C'est-à-dire qu'avec cette simplicité, ces interactions simples, vous arrivez à une complexité qui est celle des calculs de tout ce qui se passe autour de nous.
Les systèmes complexes, des fourmis jusqu'à la science des villes, faut-il mettre le monde en équation? Dossier très complet à lire dans la recherche de cet été, dont nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Le vent nous portera. On écoute Sophie Hunger, magnifique reprise sur RFI.
Tout ira bien. à ta porte l'infinité de destin en opposant et qu'est-ce qu'on en retient.
Magnifique reprise par Sophie Hunger sur RFI autour de la question comment la science infuse et comment le vent peut nous porter à comprendre le succès du jeu Fortnite. Caroline Tourbe, dans Science et Vie, vous êtes intéressée à ce jeu à succès qui couronne les neurosciences et qui surtout remporte un succès phénoménal. Alors qu'est-ce que c'est Fortnite ?
Alors, oui, Fortnite, alors, donc c'est un jeu de Battle Royale. Qu'est-ce que la Battle Royale ? C'est assez simple, ce sont des joueurs, des personnages qui vont s'affronter et puis il n'y aura plus qu'un à la fin qui va gagner l'épreuve. Donc là, Fortnite, c'est ce qui est original, c'est son design. Notamment, les personnages sont absolument délirants. Ça, on peut incarner un nounours rose avec des cœurs partout et qui va avoir des gros pistolets à peinture. On peut être un gros baraquet. On peut être, enfin, toute forme de personnage très humoristique. Et systématiquement, les batailles se déroulent dans une île. Au début du jeu, au début de la partie, les personnages sont parachutés ou arrivent sur une île avec des moyens divers et variés qui attisent la curiosité d'ailleurs des personnes qui joue. On arrive sur une île avec 100 concurrents, sans autres concurrents, et à la fin, il n'y en aura donc plus qu'un. Donc la règle du jeu est assez simple, et à Science et Vie, c'est ça qui nous a intéressé, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à concevoir un jeu qui a un tel succès, presque universel. En 9 mois, Fortnite a réussi à attirer 150 millions de joueurs, c'est un record absolu. Il y a vraiment des jeux qui ont eu beaucoup de succès, on peut peut-être se souvenir de Minecraft, c'est un jeu qui peut, alors vous n'avez pas forcément joué, mais ce nom-là peut dire quelque chose, c'était à la fois stratégie guerre. Et ça, on avait eu un peu moins de 150 millions de joueurs en 9 ans. 9 années. Là, on est sur 9 mois. Donc, c'est
comment
phénoménal.
Comment ça se fait ? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu et pourquoi ça hypnotise comme ça les joueurs ?
Exactement.
Parce que les chercheurs parlent de ça aujourd'hui.
Une sorte de recette neurologique, on pourrait presque dire. Et c'est pas un hasard parce qu'à Epic Games, qui est la société qui a lancé Fortnite, ils avaient dans leur rang, à l'époque, Cecilia Odent, qui est une spécialiste en psychologie cognitive. Et elle s'est basée sur les dernières recherches en psychologie cognitive pour travailler avec les équipes de
développeurs du jeu vidéo. Par exemple, dans Fortnite, il y a quelque chose qui est déterminant, c'est que l'un des objectifs des créateurs de ce jeu, c'est de plonger le joueur dans un état mental semblable à celui qui est décrit dans la théorie du flow. Alors la théorie du flow, c'est quelque chose qui a été théorisé au départ chez les athlètes de haut niveau, chez les joueurs d'échecs, où on est vraiment dans l'équilibre optimal entre les compétences du joueur et les difficultés d'un exercice. Attention et concentration vont être en permanence sollicitées, et on arrive à un point dans Fortnite où c'est très réussi, où le joueur, il a l'impression au final de devenir le personnage du jeu.
Le flow parfait.
Exactement. Et ça, si c'est possible, il y a eu des études qui ont montré, alors pas faites sur Fortnite, mais précédemment, qui ont montré en fait que c'est parce qu'il n'y a pas un réseau de neurones qui se met en route, mais en fait tout un tas de réseaux de neurones qui se mettent à vibrer, notamment cortex singulaire antérieur, par exemple, où il y a attention et concentration qui s'active, et lobe temporal où il y a l'empathie. Donc on va vraiment être dans cette sensation de transformation de son propre soi dans le personnage du jeu vidéo.
Ce jeu vidéo, il touche exactement les neurones ou les connexions qu'il faut, quoi.
Exactement. Mmh. Et ça, sans effort. C'est l'autre point ou l'autre ingrédient important dans cette réussite, c'est qu'ils ont travaillé sur ce que les designers de jeux vidéo appellent l'affordance. Alors ce mot-là, c'est là, par exemple pour un objet, sa capacité à suggérer immédiatement comment et pourquoi on va s'en servir de cet objet.
Typiquement, on comprend tout de suite.
Voilà, dans un jeu vidéo, vous allez voir apparaître une hache, voir apparaître une pioche, et ils ont eu comme ça des essais. Ils avaient mis au départ un système où la pioche pouvait permettre de récolter des matières premières qui vous faisaient gagner des points, mais la hache, c'était juste une arme de guerre. Et en les montrant au même niveau, ils se sont aperçus au début que les joueurs ne comprenaient pas. La fordance était mauvaise, on ne comprenait pas à quoi servait la hache, à quoi servait la pioche. Ils ont modifié la présentation de ces objets-là, et on se met tout de suite à comprendre immédiatement. Quand on voit une hache, on comprend que c'est pour faire la guerre. Quand on voit la pioche, on comprend que c'est pour récolter des matières premières. Donc en transformant le design, ils ont facilité l'accès et donc facilité typiquement le plaisir qu'on a à jouer, la sensation très rapide de garder son intérêt et la facilité pour le jeu.
Donc la recette pour faire un bon jeu vidéo, c'est de s'adresser à des chercheurs en neurosciences pour taper pile poil là où il faut. C'est formidable, et en même temps ça fait un petit peu peur aussi, parce qu'on se dit que justement, on va pouvoir nous capter précisément là où il faut, capter notre attention, qui est quand même l'enjeu majeur dans nos sociétés.
Exactement, capter l'attention, on en a tous conscience, hein, avec la multiplication des écrans, la multiplication des réseaux sociaux. On a vraiment l'impression que la matière première qui fait la fortune des grandes entreprises du futur, c'est notre attention. Sur les jeux vidéo, c'est précisément ça aussi, mais dans le cas de Fortnite, on ne parle pas forcément d'addiction, hein. On est vraiment sur une notion de plaisir et d'adhésion, plus que d'addiction. Mais par contre, l'addiction aux jeux vidéo vient d'être reconnue par l'OMS comme étant une addiction véritable, et dont on doit prendre en charge les gens qui sont touchés par cette addiction. Alors c'est de l'addiction sans substance, c'est quelque chose qui est débattu aussi, c'est-à-dire que c'est pas exactement... C'est un comportement addictif qui met quand même en route des réseaux qui ont à voir avec la concentration et la récompense. Donc tout ce qui est dopamine qui se déclenche quand on reçoit une récompense. Là, typiquement, dans un jeu vidéo, ça va être le fait d'être classé premier dans le jeu vidéo,
d'avoir
engrangé des fortunes virtuelles. Voilà. Et c'est le mélange entre la concentration, l'attention, et la récompense qui fait qu'on peut arriver, déboucher vers une addiction. Et comme je disais, donc l'OMS considère dorénavant, que l'addiction aux jeux vidéo existe.
Est-ce que vous avez joué à Fortnite?
Alors, je n'y avais pas joué avant qu'on se mette sur ce dossier, puis j'y ai joué. Et moi qui ne suis pas fan de jeux vidéo, j'avoue, même moi j'ai compris et je me suis amusée. Alors, pas très longtemps, hein. Je pense que quand même si on est rétif aux jeux vidéo, mais ça permet de comprendre aussi, dans notre entourage, on a souvent des jeunes, des ados qui jouent à Fortnite, qui en parlent, et l'un des trucs est amusant actuellement. Si vous avez regardé les matchs de foot, certains joueurs ont repris des gimmicks quand ils marquent un but ou quand ils sont contents, des gimmicks qui en fait des petites danses bizarroïdes, et en fait elles sont dans Fortnite.
Fortnite, pour tout savoir sur ce jeu à succès qui couronne les neurosciences, eh bien c'est à lire dans Science et Vie 2 ce mois de juillet, dont nous avons, je vous le rappelle, amis auditeurs, quelques exemplaires à vous faire gagner. On se fait un petit plaisir, pas en jeu vidéo, mais avec Marvin Gaye sur RFI. Merci, merci.
Mercy me.
on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Lost mother, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are lost. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand?
Merci Marvin Gaye sur RFI autour de la question comment la science infuse et comment les jeux, pas seulement les jeux vidéo mais les jeux mathématiques peuvent nous aider à passer un bon été. C'est le numéro spécialité de la recherche Philippe Pageot qui est consacré aux jeux mathématiques.
Oui, toutes sortes de jeux, hein, des énigmes logiques, des labyrinthes, des jeux policiers, des jeux de plateau, donc il y a vraiment de quoi.
Pas besoin d'être très très bon en mathématiques. Alors, aussi quand même.
Non, il n'y a pas besoin d'être bon en mathématiques, hein, c'est pas du tout pour les mathématiciens, mais c'est vraiment pour jouer, s'amuser avec les chiffres, avec la logique. Et à côté de ça, on a mis des articles, notamment un peu plus sérieux, on va dire. Notamment, on a un entretien de Villani qui explique Cédric Villani,
mathématicien député.
Voilà, le rôle du jeu dans l'éducation, qui est un rôle. Sans doute pas assez mis en avant, parce qu'on pourrait faire plein de choses avec les jeux. Puis ça met aussi en avant les problèmes qu'on a, notamment avec la perception qu'on a parfois des mathématiques et des probabilités. Il y a ce fameux problème des trois portes. Vous savez, il y a trois portes fermées. Il s'agit de maximiser ses chances de gagner quelque chose. Et on s'aperçoit en faisant ce genre de jeu que notre intuition nous trompe très très souvent.
Ne nous fions pas à notre intuition, mais jouons à des jeux mathématiques. C'est dans la recherche cet été. On va remonter le temps et briser quelques-unes de nos idées reçues dans Science et Avenir, Carole Châtelain, sur... les guerriers vikings qui étaient des guerrières, c'est bien ça les idées reçues sur les femmes et la guerre
tout
sont
à fait,
en train de bouleverser.
C'est une étude qui vient de paraître grâce à une archéologue suédoise qui donne un grand coup de pied dans les idées reçues, puisqu'elle confirme par des études ADN qui ne peuvent pas être contestées, bien que certains chercheurs tentent de le faire, que le guerrier qui reposait dans une tombe déjà connue de Birka, qui est un endroit et un site très connu en Suède, était une guerrière. Donc ça prouve bien qu'il y avait des femmes qui portaient les armes chez les vikings.
Et il n'y avait pas que chez les vikings.
Il n'y avait pas que chez les vikings, puisque dans Sciences et Avenir, nous en profitons pour rappeler que les femmes, il y a eu des armées de femmes, notamment au Japon, il y a eu les Onabugesha, il y a eu les Amazones évidemment, il y a eu Oda Ome, les Minos, et puis aujourd'hui aussi, il y a des femmes militaires, il y a des femmes qui prennent des commandements au Japon, aux États-Unis. Au Japon notamment, elle dirige toute une unité navale. Aux États-Unis, elle dirige des marines. Et en France aussi, évidemment, il y a des femmes dans l'armée. Donc, qu'on cesse de penser que les femmes sont à l'arrière et sont cantinières.
Les femmes peuvent aussi faire la guerre. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle à lire dans Science et Avenir. Alors, on s'arrête un peu sur la une de Science et Vie, Caroline Tourbe, et sur la face cachée des océans. Nouvel enjeu planétaire que d'aller découvrir l'incroyable biodiversité qui se lit jusque dans les grands fonds marins et puis toutes les ressources potentielles pour le meilleur, pareil comme pour le pire, pour notre humanité et notre devenir à nous sur Terre.
Oui, les océans, c'est 70% de la surface de la Terre et pourtant, c'est vraiment des grands inconnus. Alors, on a classé 8 inconnus en lien avec les océans. On parle par exemple de l'inconnu thermiques et des canicules sous-marines qui pourraient bouleverser tous les écosystèmes.
Des canicules sous-marines.
Oui, des canicules sous-marines, exactement. Des choses qui étaient passées un peu sous le radar et qui apparaissent comme extrêmement importantes pour les écosystèmes. On parle aussi, par exemple, d'inconnus écologiques, les plastiques avec les océans qui pourraient se dégrader, qui pourraient vraiment devenir otages de tous ces plastiques qu'on rejette. Voilà, 8 inconnus déterminants pour notre vie sur Terre.
La face cachée des océans, nouvel enjeu planétaire à découvrir en une de Science et Vie. Philippe Hénarejos, on a bien dit que Ciel et Espace nous emmenait sur Mars, mais vous, à la rentrée, vous nous emmenez sur la Lune, vous sortez un livre, Ils ont marché sur la Lune, ce sera en septembre, préfacé par Bertrand Piccard, du vol solaire, et vous nous racontez en fait notre histoire humaine et l'histoire d'Apollo.
Oui, en fait, j'ai longtemps hésité. Je m'intéresse à cette question de l'exploration lunaire par les missions Apollo depuis toujours. Et depuis toujours, je me suis dit, oh, tout a été dit, c'est pas la peine, je vais pas rajouter quelque chose. Et en fait, il y a 2 ans et demi, j'ai donné une petite conférence dans un club d'astronomie. Et je me suis aperçu que les gens ne connaissaient pas ce que les astronautes avaient fait sur la Lune. On connaît l'histoire, on connaît la course entre les États-Unis et la Russie pour être les premiers sur la Lune. On connaît les aspects techniques, on sait comment Armstrong s'est posé, ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur la Lune, finalement?
Est-ce qu'ils ont étudié?
Voilà, en fait, j'ai voulu raconter la première exploration humaine de notre corps céleste par une poignée d'humains, puisqu'ils étaient 12 en tout, entre 1969 et 1972. Et cette information-là, elle existe, mais elle est sur des sites un peu spécialisés en anglais, etc. Donc j'ai fait un gros travail de documentation. Je suis reparti à essayer de trouver des acteurs de l'époque, que ce soit des géologues ou des astronautes. Je sais
pas
tous.
Vous en avez trouvé ?
Oui, j'en ai trouvé, malheureusement pas tous. Mmh. C'était assez compliqué. Mais du coup, voilà, j'ai eu l'envie de raconter cette exploration. Mes histoires dans ce livre commencent au moment où les astronautes posent le pied sur la Lune et elles s'arrêtent au moment où ils repartent. Tout le reste, les voyages, tout ça, je le laisse puisque ça a été abondamment fait, mais je suis très content d'avoir pu exhumer pas mal de perles dans ces explorations qui restent avant tout des aventures humaines.
Aventures humaines et scientifiques, bien sûr. Le récit inédit des explorations Apollo, Ils ont marché sur la Lune, Philippe Hénarejos, c'est à paraître en septembre en librairie. Merci infiniment d'être venu pour notre dernière table ronde de l'été. Merci Philippe Hénarejos, merci Philippe Pajot, merci Carole Châtelain, merci Caroline Thaube. On vous souhaite évidemment un bel été. On se retrouve en septembre pour notre table ronde de rentrée autour de vos magazines respectifs. Je vais les citer: Ciel et Espace, La Recherche, Science et Avenir et Science et Vie. Magazines dont nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs. Ils sont pour vous. Si vous nous les demandez gentiment par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. À bon entendeur. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'application RFI Pure Radio, avec Sophie Janin à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Alexandre Reza Kokabi en coulisses également. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour nous interroger sur les rêves. Oui, les rêves. Autour de la question, comment s'inspirer de nos rêves, avec entre autres la chanteuse Barbara Carlotti qui travaille avec la neuroscientifique Perrine Ruby, mais aussi une anthropologue qui rassemble les rêves dans les cités nord de Marseille. Faites de beaux rêves, amis auditeurs, à l'écoute de RFI. Merci de votre curiosité. Gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, après les bandes annonces, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur la Radio Mondiale.